On est aujourd'hui le mardi 25 Nissan, on est le 14 avril, on reprend notre cours de Tania, on va reprendre le chapitre 13 parce qu'on l'avait à peine commencé, comme il y a eu une interruption de pratiquement un mois depuis le dernier cours, il est clair qu'on ne peut pas continuer sans reprendre. Donc on lit comme on a l'habitude de le faire et on rentre vite dans le vif du sujet.
On
a donc un enseignement des maîtres qui dit au sujet de ce qu'on appelle l'homme intermédiaire, le Benoni, qui n'est ni un véritable juste et ni un véritable méchant. Donc l'homme intermédiaire, c'est nous finalement. On a nos hauts, on a nos bas, on a nos biens, on a nos mâles. Et donc l'homme intermédiaire, disent nos maîtres, Zeveze Shoftam, il est jugé à la fois par son Yetzeratov et à la fois par son Yetzerara. Maintenant, en reprenant le cours, je me rappelle qu'effectivement qu'on avait pas mal expliqué cette notion-là. On va répéter l'essentiel, mais ceux qui voudront avoir la notion dans toutes ses nuances, ils n'ont qu'à revenir au dernier cours de Tania, enfin l'avant-dernier par rapport à celui-là. Mais on avait posé une question évidente. Qu'est-ce que cela peut signifier que l'homme est jugé, lashon mishpat, par le Yetzer HaTov et le Yetzer HaRa? Le Yetzer HaRa ne peut pas nous juger, au contraire, il veut nous faire tomber. Dans, on pourrait dire, le schéma classique et primaire d'un homme, au contraire, le Yetzer HaTov serait plutôt le juge qui prévient l'homme, attention, si tu fautes, attention à toi, attention à toi, donc un petit peu la fonction du juge, pas vraiment, mais si déjà, et tandis que par contre, le Yetzer HaRa, on le voit plutôt comme le brigand, comme le méchant, qui dit, allez, viens, viens, on va faire un mauvais coup, viens, viens, viens. Or, nos maîtres révolutionnent cette manière de penser en disant que non, 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 le Yetzer HaRa est aussi un des deux juges qui, d'une certaine manière, essaye de t'indiquer la marche à suivre. Alors, encore une fois, tout ça, c'est le cours qui avait déjà été donné, mais on avait posé la question, on comprend que le Yetzer HaTov puisse se présenter comme un juge, qui me juge, c'est ma conscience, c'est mes remords, c'est le juge qui nous révèle quelle est la loi et ce qu'il faut faire. Mais comment le Yetzer HaRa peut être traité, comment peut-il être appelé un juge, puisque, encore une fois, il veut notre mal. Alors on avait expliqué que cet enseignement prend le Yetzer HaRa à un niveau qui est très 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 haut. Le Yetzer HaRa, c'est pas comme on le comprend à un niveau très très primaire, une force brutale, idiote, méchante, impure, qui veut me faire tomber. Et donc effectivement, si déjà on choisit ce genre d'image, se présenterait plus comme un voyou que comme un juge. Non. Le Yetzer HaRa peut être un juge aussi parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est mauvais en tant que tel, mais c'est quelque chose qui plutôt n'est pas exactement ce que je dois faire au moment où on me demande de le faire. Je sais que je suis très très vague, mais je vais vous donner d'abord un exemple très 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 précis de la Torah elle-même, et puis après on va le faire descendre dans la réalité et on va sans doute rajouter des choses par rapport à ce qu'on avait expliqué il y a un mois. Je vous ai souvent, je pense, vous l'avez entendu dans d'autres cours, je vous ai souvent rapporté l'enseignement absolument révolutionnaire et incroyable du Ari Akadosh qui explique, contrairement à l'apparence du verset, que l'interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on retrouve les deux mots, Tov et Ra, comme Yetzer HaTov, Yetzer HaRa, en réalité cet interdit était uniquement momentané. Que si Adam avait attendu, Ari HaKadosh étant un maître des secrets, utilise lui aussi le langage de la métaphore, codé, mais il nous dit dans son langage métaphorique codé, que si Adam avait attendu, non seulement l'arbre aurait été permis, mais il aurait fait le quatrième repas du Shabbat, il avait Malka, il l'aurait fait sur cet arbre-là. On sait d'après le Sod, d'après les secrets, que le quatrième repas de Shabbat, bien qu'il ait fait à la sortie du Shabbat, malgré tout le quatrième repas est le plus important des quatre repas. Et par rapport aux quatre personnages bibliques qui représentent chacun l'un des repas, premier repas, c'est le repas. On se trompe tout le temps. Non, si je pose la question, c'est que certainement pas l'ordre. Le premier repas est par rapport à Yitzhak. Le deuxième est par rapport à Abraham. Le troisième est par rapport à Yaakov. Il y a donc une inversion au niveau des deux premiers. Mais le quatrième, à la vie de tous, c'est d'après David. Ce qui veut dire que le premier repas est sous le signe de Midat HaGvoura, la force. Le deuxième repas, Chesed, la bonté. Le troisième repas, Tiferet, Yaakov, l'équilibre, la vérité. Et enfin, David, le quatrième repas, la sortie du Shabbat, Malchut, la royauté. Donc, c'est évident que c'est le plus important des quatre. Puisque, comme on le sait, tous les attributs divins, on est en pleine période du Homer, tous les attributs divins sont toutes une étape préparatoire au dernier de tous, qui est Malchut, qui est la royauté, Bayom Ahui Hashem le Melech al Kol Haaretz. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Pourquoi on doit être bon? Pourquoi on doit être fort? Pourquoi on doit être vrai? Pourquoi on doit être déterminé? Pourquoi on doit être etc. etc. Toutes les qualités qu'on nous demande d'avoir, c'est afin de réaliser le projet qui est le dévoilement de la Malchut. Et lorsque l'homme dévoile la Malchut, lui-même il devient roi. C'est la dimension royale qu'il y a dans chacun d'entre nous qui permet le dévoilement du roi des rois, qui est le maître du monde. Donc, tout le monde comprend que si le quatrième repas est par rapport à David, c'est donc David qui a la fonction essentielle, c'est le plus important de tous, c'est le réalisateur. Et donc, automatiquement, le quatrième repas est plus important que les trois premiers. D'après la Kabbalah, c'est effectivement le cas. Donc, comment le Ari Akadosh peut-il nous révéler cette chose absolument folle? Comme quoi, finalement, l'arbre qui était interdit, qui est le symbole de la faute, de la première faute qui englobe et la matrice de toutes les fautes à venir jusqu'à Biat HaMashiach, comment cet arbre-là, tout d'un coup, allait devenir l'arbre représentant la perfection, le summum, le tachlit, ce qu'il y a de meilleur, le quatrième repas de Shabbat? Comment l'interdit peut-il se transformer en ce qu'il y a de mieux? Mais je vais revenir maintenant avec des tas de notions que vous connaissez déjà, simplement je vais les reconstruire d'une autre manière. Vous savez que les mêmes ingrédients, on peut produire un repas différent quand on est un bon cuisinier. Et donc, même si on a les mêmes ingrédients. Je vous rappelle, avant d'aller plus loin, que le mot Nahash, qui est la force du mal, nos maîtres font remarquer, donc celui qui a fait tomber Adam, qu'il l'a donc précipité à manger quand il ne fallait pas le manger, c'était encore trop tôt. Cet arbre qui finalement était le meilleur de tous, mais c'était trop tôt. Le Nahash a la même valeur numérique que Mashiach. Comment? La force qui fait tomber Nahash a la même valeur numérique que la force qui va tout réparer, Mashiach, Messie. Ne compte pas. Mais si ça vous étonne, comment quelque chose qui est hyper négatif pourrait être en soi une chose hyper positive, ben on n'est qu'à quelques jours de Pessah. Où celui qui mangeait du pain pendant Pessah, son âme était retranchée, et après Pessah, toute connexion avec Hachem passe par du pain. Ça veut dire qu'on ne peut plus se connecter à lui sans pain. Shabbat, Yom Tov, Brit Mila, mariage, tout ce qui nous connecte, je parle au niveau repas avec Hachem, le pain. Le seul aliment au sujet duquel la Torah dit explicitement qu'en le mangeant il faut remercier, c'est le pain. Birkat Hamazon, qui est la seule bénédiction de la Torah. Comment le pain, qui est la nourriture de la connexion, est la nourriture qui nous retranche pendant Pessah? C'est toujours la même notion. Toujours la même notion. Ce qui veut dire que la Torah nous révèle ici que le mal tel que le judaïsme le comprend n'a rien à voir avec le mal tel que toutes les religions, toutes les morales le définissent. Ce n'est pas que le judaïsme refuse que ce mal tel que les autres en parlent existe, bien sûr qu'il existe, mais ce n'est pas le sujet de la Torah. La Torah ne s'intéresse pas à ce mal. Ce n'est pas celui-là dont on parle. Nous, on parle d'un mal qui en soi est fondamentalement bien. Mais il est mal. Pourquoi il est mal? Parce que ce n'est pas au bon moment, ce n'est pas au bon endroit, ce n'est pas de la bonne manière. Ça veut dire que ce n'est pas la chose qui est mauvaise, c'est ta relation à qui n'est pas bonne. Et ça, c'est une définition extraordinaire de la Torah. Il y a énormément de choses qui en soi sont bonnes, mais dans ce moment précis, de cette manière et à cet endroit, c'est très mauvais. Et là, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est bon ou c'est pas bon? C'est très bon, mais... Et ça, l'homme a énormément de mal à accepter. Nos maîtres nous révèlent que la racine de tous les problèmes de l'homme et la racine du mal, tel qu'après toutes les morales vont en parler, le mal visible, violent, méchant, impur, la racine de ce mal-là commence à un endroit où tout est encore bien, mais peut être mauvais si ce n'est pas au bon moment. C'est-à-dire qu'en vérité, comment qu'on va traduire, nous juifs, l'arbre du bien et du mal ? On va le traduire de la manière suivante, l'arbre du bien et du bien potentiel. L'arbre du bien, c'est-à-dire qu'il y avait des fruits que tu pouvais prendre maintenant, et il y avait des fruits qui étaient un bien potentiel, ça veut dire qu'ils étaient fondamentalement bons, mais potentiels, c'est-à-dire que ce n'était pas encore le moment. Et d'après l'explication, allons plus loin, si je traduis, si j'explique plus, et des deux fruits, le bien maintenant et le bien demain, lequel des deux était le suprême bien ? Le bien potentiel. Ce qui veut dire qu'on arrive à un chidouche absolument incroyable. Quelle est la définition du mal biblique ? Quelque chose d'extraordinaire dont le temps, dans le moment, n'est pas encore arrivé. Voilà le bien biblique. Voilà de ce qu'on parle. Maintenant, vous pourrez remarquer... Le mal dont on parle. Vous pourrez remarquer que la plupart des grands personnages bibliques, dont l'histoire est un modèle pour nous, ont toujours eu un problème avec ce genre de situation. Pour ceux qui connaissent mes cours, le plus symbolique de tout, ce qui est le symbole de ce problème, qui est la réincarnation, disent nos maîtres, de la faute d'Adam Harishon, c'est qui avec qui ? David et Bathsheba. Il voit celle, disent nos maîtres, qui n'a été créée que pour lui. Rehuya Aïta Bat Sheva le David, mais Shechet Yeme Bereshit. Bat Sheva était destinée à David depuis les 6 jours de la création. Sur ça, nos maîtres posent une question, pourquoi elle plus qu'une autre ? Pourtant, nos maîtres nous disent qu'il y a pour chaque homme, après les 40 jours de la fécondation, il y a une voix qui sort, une voix du ciel qui sort, c'est une métaphore, et qui dit « Bat ploni le ish ploni », celle-là sera pour celui-là. Ça veut dire que c'est décidé quand on est encore dans le ventre de nos mères. Donc, pour tout le monde, c'est décidé. Nos maîtres répondent « Oui, mais David, c'était décidé bien avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. C'était décidé depuis les 6 jours de la création. » Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça fait partie des structures fondamentales de la création. C'est-à-dire de la même manière que le soleil ne peut pas ne pas se lever à l'est et se coucher à l'ouest, de la même manière que l'eau ne peut pas ne pas mouiller et le feu ne peut pas ne pas brûler, David ne peut pas ne pas rencontrer Bathsheba. Parce que en ce qui concerne un autre zivoug, il est parfois possible que même que c'est un zivoug, c'est pas sûr et certain qu'ils vont se rencontrer forcément dans cette vie et facilement, etc. Mais à partir du moment où David est là, c'est impossible qu'il ne rencontre pas Bathsheba. Déjà, c'est donc très très fort, d'accord ? Vous savez tout, j'ai déjà expliqué qu'en vérité, et le mariage, comment ça se passe, c'est pour être sûr que c'est le vrai, ça veut dire c'est quand ça s'allume et qu'on ne sait pas pourquoi. Parce que si on analyse, on fait ce qu'on appelle un voyage d'études, oui, bon, elle me convient, c'est pas mal, oui, bon, c'est bon, d'accord ? C'est sûr que ça va marcher. Ça ne peut marcher que si tu ne sais pas pourquoi tu as décidé de te marier avec elle. Sinon, c'est impossible que ça marche, parce que ça vient d'en haut. C'est la reconnaissance des âmes, c'est pas la reconnaissance des cerveaux. Ça se passe à ce niveau-là, pas à ce niveau-là. Donc, automatiquement, si c'est vrai pour un zivoug de notre niveau à nous, vous imaginez, lorsque David est monté comme toutes les nuits à minuit pour louer son créateur sur son balcon, et que la veille venait d'emménager dans l'une des maisons voisines Bathsheba et son mari, et que en montant sur son balcon, il l'a vu, et elle l'a vu, vous imaginez, paf, le choc qu'il y a eu. Parce que ces deux âmes qui étaient créées depuis les 6 jours de la création, se sont reconnus. Déjà ça, ça aurait suffi. Mais ce n'est pas seulement ça. C'était la seule avec laquelle il pouvait faire sortir la lignée du Mashiach. Et en plus, c'est sa fonction à lui en tant que David Melech Israël, roi d'Israël. Donc vous imaginez la folie de l'aimantation. Dites-moi, elle est pour lui ou elle n'est pas pour lui? Elle est super pour lui. Il a le droit de la prendre ou il n'a pas le droit de la prendre? En théorie, évidemment qu'il a le droit de la prendre. Il a le devoir de la prendre ou il n'a pas le devoir de la prendre? Il a le devoir de la prendre. Et alors pourquoi c'est la faute qui lui a coûté toutes les catastrophes du monde? Il l'a pris trop tôt. Ce qui veut dire que l'extrême bien, parce qu'il s'est précipité à le prendre, est devenu l'extrême mal. Ça veut dire que s'il avait, écoutez maintenant l'histoire, s'il avait attendu que son mari meure naturellement à la guerre, parce que je veux dire, on peut mourir normalement à une guerre, malheureusement, si David n'avait pas précipité les choses en le mettant, en le faisant mettre en première ligne, c'est pas David qui l'a tué, ni personne, c'est une flèche ennemie. Disons que David s'est arrangé pour que ça arrive un peu plus vite que ça serait peut-être arrivé. Si David avait fait confiance en Hachem et s'était dit, de la même manière que tu viens de me montrer que mon zivoug est là, ah, elle est mariée pour l'instant, mais Hachem, son mari est à la guerre, donc un soldat, malheureusement, ça meurt aussi. Je te laisse faire. S'il avait attendu et que le mari soit tombé tout seul, il se maria avec elle, le premier enfant, il se serait appelé comment? Meler Ha Mashiach. Il l'a pris trop vite, on en a pris pour 2000 ans. Ça veut dire que quelques jours d'attente se sont transformés en des millénaires. Quelques jours de non-attente se sont transformés en plusieurs millénaires. Qui aussi, on est à la veille de Yom HaShoah et de beaucoup d'autres choses aussi qui se sont passées. Ça veut dire que David a lourd sur ses épaules. Mais on ne rentrera pas dans les détails. Pour une précipitation de quelques jours, l'extrême bien s'est transformé en extrême mal. Et ça, c'est quelque chose que les hommes ont énormément de mal à comprendre. Nos maîtres nous disent que l'un des symboles, aussi à part le chametz, à part le pain, c'est l'interdiction de bassar vechalav, l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Le lait, d'un côté, est permis. La viande, de l'autre côté, je parle d'une viande cachère, est permis. Pourquoi en les mélangeant, ça devient l'un des interdits de nourriture les plus importants qui existent? C'est plus grave de manger un mélange de lait et de viande que de manger du jambon. C'est plus grave de manger un steak cuit dans le beurre, un steak cachère, que de manger du porc et du lard. Mais je ne comprends pas, le lard est toujours interdit. Comment cette viande d'agneau mélangée avec du lait peut-elle devenir plus grave que le lard? C'est permis et c'est permis, oui, mais ils ne sont pas maintenant au bon endroit. On a vu le mauvais temps, on a vu l'endroit. Prenons maintenant le cas aussi où ce n'est pas le temps, ce n'est pas l'endroit, mais c'est la personne. Il y a des situations aussi où la personne peut être, prenons le cas d'un couple, la personne peut être permise et elle met dans une situation où maintenant elle est interdite. Mais je ne sais pas, c'est ma femme. Mais maintenant, c'est comme si elle ne l'était plus. Plus encore, là je vais vous choquer, et surtout ne disjonctez pas au niveau de la halakha, car les deux sont très graves. Mais dans le très grave, c'est plus grave d'aller avec sa femme en période interdite que d'aller avec une étrangère qui n'est mariée à personne et qui n'est pas dans une période interdite. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, tu prends une femme avec laquelle tu n'es pas mariée, elle n'est pas mariée non plus, elle est dans une période permise, et vous allez ensemble. C'est très grave, mais c'est infiniment moins grave que d'aller avec sa propre épouse quand elle est interdite. Comment c'est possible? Attends, elle c'est mon épouse. Eh bien, on a vu tous les cas possibles. Ça, l'homme standard ne pourra jamais comprendre. Ça lui est impossible. Et ça, c'est le ridouche incroyable de la Torah. La Torah, elle te montre que le mal commence même dans des choses qui sont suprêmement bien. Mais c'est ton épouse, c'est Bathsheba, c'est de la viande et c'est du lait. Oui, mais c'est pas le moment, c'est pas le bon endroit, c'est pas les bonnes conditions. Et ça devient à ce moment-là très mauvais. Ça, c'est le mal dont la Torah parle. Alors maintenant, on comprend pourquoi le Yetzerara peut être lui aussi un chauffette, peut se présenter lui aussi comme un juge. Par exemple, il va venir mettre l'accent sur l'essence de la chose et non sur la modalité du fonctionnement. Par exemple, le Yetzerara, il est venu chez David. Et vous savez ce qu'il a dit à David? Il a dit, mais enfin David, tu ne vas pas la laisser passer. C'est Bathsheba. Vous vous êtes reconnus, vous vous connaissez depuis des millénaires, depuis les 6 jours de la création. D'accord? En plus, tu ne vas pas tuer son mari, tu demandes simplement ce qu'il soit mis en première ligne. Je crois qu'il n'y a jamais de soldat en première ligne, quoi. Tout soldat en première ligne, c'est un assassinat. Et je veux dire, les meilleurs de nos soldats, ils sont toujours non seulement en première ligne, mais ils sont même derrière les lignes. Donc qu'est-ce qu'il y a? Tu vas voir le Mashiach avec elle, David. Quel est le discours du Yetzerara? Le discours d'un chauffette, il ne dit que des vérités. Et pourquoi c'est le Yetzerara? Parce qu'il t'aveugle sur un point. Est-ce que c'est le bon moment, le bon endroit, la bonne situation? Et c'est là que commence tout le problème. Et c'est là l'effort véritable. Le Benoni, c'est vous et moi. On n'est confronté, mes amis, qu'à ce genre de problème. Parce que le Yetzera, il ne va pas venir chez nous nous dire « va avec la femme d'un autre ». Ce n'est pas possible pour nous. Il ne va pas venir, il ne va pas nous dire « mets ta main dans le porte-monnaie d'un autre ». Ce n'est pas possible pour des gens comme nous, on est des bénonymes. Il ne va pas venir, il va me dire « prosterne-toi devant une idole ». Profane Shabbat, mange pas cachère. Il n'a aucune chance avec nous, et il le sait. Mais comment qu'il va venir? Il va nous montrer deux chemins, qui les deux sont très bien, même le mauvais paraît encore mieux que le bon, et il va dire, allez, vas-y, prends-le, c'est bon, vas-y, prends-le, et pff, tu te fais avoir. Vous savez dans quel domaine, mes amis, on le voit tout le temps ce problème? Dans les conflits humains. Dans les conflits humains, 99,9% des gens qui se disputent, que ce soit dans un couple, dans une relation, dans une affaire, dans un voisinage, etc. 80,9% des gens qui se disputent, c'est parce qu'en vérité, les deux ont toujours 100% raison. Mais en même temps, 100% tort. Pourquoi? Parce que la raison n'est vraie que théorique, elle n'est pas vraie pratique. Je vais vous donner un exemple très simple. Je m'excuse avec mes gros sabots, parce que c'est l'exemple fondamental que je reprends toujours. Dans un couple, mais c'est le modèle de toutes les relations humaines. Dans un couple, à partir de quand il n'y a pratiquement plus d'espoir de pouvoir les aider? Quand ils se déchirent sur des sujets où ils ont vraiment et véritablement tous les deux raison. C'est fichu. Sauf si tu arrives à leur faire comprendre que justement, c'est parce que vous êtes avec plus de raison que vous êtes en danger. Il y a forcément un des deux qui doit céder. Je vais expliquer comment. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y en a un qui est malhonnête, quand il y en a un qui ment, quand il y en a un qui est de mauvaise foi, et qu'on a affaire à des gens qui veulent s'en sortir, c'est facile pour un intermédiaire ou pour un rave ou pour que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est facile. Tu sais que tu as affaire à des gens qui, quoi qu'il en soit, veulent s'en sortir. Tu es capable de lui montrer qu'il est de mauvaise foi, qu'il a de mauvaises midotes. Dai, ça suffit, dai, sinon je m'en vais, débrouillez-vous. Bon, ça va, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je dois faire alors? Mais quand tu as affaire à des gens qui, chacun, selon son angle de vision, a 100% raison, c'est l'autre qui a tort, mais c'est vrai dans les deux sens. Comment tu fais? Tu dois arriver à expliquer à l'un des deux, peut-être des fois aux deux, que bien que vous avez tous les deux raison, votre raison n'est pas applicable dans ce contexte précis. Tu dois arriver à prouver que le contexte précis fait que bien que tu as raison, mais dans ce contexte-là, ça ne s'applique pas.
C'est le moment.
Et votre erreur, c'est que vous venez au nom de raisons qui sont vraies, mais vous ne tenez pas compte que dans le contexte précis... Voilà. Un exemple simple. C'est l'exemple qui ne vous concerne pas, mais exemple extrêmement simple. D'accord. C'est des exemples, je ne dis pas que c'est le cas. Très bien. Est-ce que c'est important pour des enfants, même des enfants adultes, de s'occuper d'une maman ou d'un papa vieux, malade, qui a besoin d'aide, qui se sent abandonné, qui a besoin d'aide? C'est une grande mitzvah?
Oui.
Très bien, on est d'accord? Très bien. Maintenant, je donne un cas, je ne tranche pas, je donne un cas possible de conflit dans un couple, je ne tranche pas, parce que chaque cas, il faut le voir avec des loupes comme ça. Mais c'est des cas théoriques qui peuvent être sujets de conflit. Maintenant, nous, on est jeunes mariés. Est-ce qu'on est dans notre première année de mariage, deuxième année de mariage, est-ce qu'on va prendre maman ou papa à la maison? Et on vit Bekoshi dans un trois pièces, on va les prendre à la maison? Ah mais quoi, on va les mettre dans une maison de vieillesse ou on va les laisser seuls avec un Thaïlandais ou je sais quoi? Oui mais on va l'amener à la maison? Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être un sujet de dispute terrible, surtout si le parent abandonné est le père ou la mère de l'un des deux. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors ça peut être un sujet de conflit où finalement les deux ont raison. Celui qui dit on ne peut pas abandonner papa. Et celle qui dit ou celui qui dit on ne peut pas tuer notre couple. Quand c'est qu'on se retrouve s'il est toujours au milieu? Les deux ont raison. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir analyser le contexte. Vous avez tous les deux raison. On sauve un papa et on sauve un couple. Mais le contexte, il va nous faire dire quoi? Et ça, c'est le difficile. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un sait qu'il a raison, il refuse d'accepter que peut-être que le contexte fait que bien que tu as raison, ça reste une raison théorique, ce n'est pas une raison pratique. Dit d'une autre manière, c'est le grand, grand enseignement de nos maîtres qui nous explique sans cesse que la vérité ne doit pas être dans le ciel, elle doit être sur terre. Vous connaissez tous ce midrash, mais ce que je dis, c'est l'application de tas d'enseignements qui trouvent leur sens dans ce cours, que quand Hachem a voulu créer le monde, il a voulu créer l'homme, pardon, il a demandé aux anges, il a pris conseil auprès des anges, c'est une métaphore bien sûr, il a demandé à l'ange de la bonté, est-ce qu'on crée l'homme? L'ange de la bonté a dit oui, tu peux créer l'homme, l'homme est capable d'être bon, d'accord? Il est possible que Hitler se précipite pour rattraper un chien qui va se faire écraser. Oui, donc l'homme peut faire preuve de bonté. Oui, c'est incroyable, mais c'est vrai. Seulement, il choisit à qui le faire. À un enfant juif, non, mais à un chien allemand, oui. Mais c'est un acte de bonté, puisqu'il allait se faire écraser. Après, il a demandé à l'ange de la justice, est-ce qu'on crée l'homme? Le juste a dit oui, bien sûr. Parce que même dans le monde de la mafia, il y a une justice. Tu donnes ta parole, tu ne le fais pas, tu es jugé, tu es condamné. Même dans les milieux, il y a un sens de la justice. C'est leur justice, mais il y a un sens de la justice. Ça n'existe pas une société où chacun fait ce qu'il veut. Il y a des lois, il y a des règles. Après, il a demandé à l'ange de la paix, on crée l'homme. L'ange de la paix, il dit, surtout pas. Impossible. Ils ne vivront qu'en guerre. Il a demandé à l'ange, et ça c'est vrai, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas la guerre. Même jusque dans la maison d'un homme, il y a la guerre. Après, il a demandé à l'ange de la vérité, est-ce qu'on crée l'homme? Non, impossible. L'homme n'est que mensonge. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a pris dans la vérité, il a jeté par la fenêtre, il est tombé à terre, il restait plus que un contre deux dans le tribunal, et on a créé l'homme. Et après, il a regardé l'ange qui était tombé à terre, l'ange de la vérité, il lui a dit, « Emet, la vérité, mais Eretz Titzmar, vérité, revient de la terre. » Alors bien sûr, la question, vous la connaissez tous. Pourquoi il prend, s'il veut deux contre un, pourquoi il prend l'ange de la vérité, pourquoi il prend pas l'ange du shalom, s'il avait jeté l'ange de la paix, il serait de toute façon resté un contre deux. Mais c'est évident qu'il sait pourquoi. Parce que tous avaient raison. Quand la bonté a dit que l'homme sait être bon, c'est vrai que Hitler peut sauver un chien allemand. Quand l'ange de la justice a dit que l'homme peut être juste, même El Capone, il avait le sens de la justice, de sa justice. Shalom, a-t-il la vérité? L'homme n'est que dispute. Même avec lui-même, il n'est pas en paix. Il ne se supporte pas. Mais l'ange de la vérité, c'est le seul qui a menti. L'ange de la vérité, c'est le seul qui a menti. Vous savez pourquoi l'ange de la vérité a menti? Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'en haut dans le ciel, tu te permets de juger l'homme s'il est vrai ou s'il est faux? La vérité, elle n'a le droit d'ouvrir la bouche que sur terre. La vérité, ce n'est pas théorique. La vérité, c'est pratique. Ça veut dire une vérité céleste, une vérité théorique. Et ça, ça n'existe pas chez nous. Quand tu dis une chose est vraie, ça veut dire qu'elle est viable. Quand tu dis une chose est fausse, elle n'est pas viable. Mais attention, elle n'est pas viable maintenant, elle sera peut-être viable demain. Donc elle est fausse aujourd'hui, elle est vraie demain. Elle est peut-être viable aujourd'hui, donc vraie, elle n'est pas viable demain, donc fausse. La vérité est jugée en fonction de la vie. Ce qui est vivant est vrai, ce qui est mort est faux. Écoute. Et ça, ça change en fonction du contexte. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, on revient maintenant à ce qu'on explique dans les conflits humains, dans les conflits entre les peuples, et dans pratiquement toutes les situations de l'existence, des gens saints d'esprit et de corps comme nous, qui ne sommes pas des bandits, bien qu'on est loin d'être des gens justes, mais on est des gens normalement bien, on est en général soumis constamment à ce genre de problème. Et comme nos maîtres nous disent, « En Adam ro'e mum le atzmo », comme nos maîtres ont déjà tranché une fois pour toutes qu'un homme est absolument incapable de voir ses propres défauts, c'est pour ça que quand on est coincé dans une situation de ce genre, on n'a pratiquement aucune chance de s'en sortir, comme on va le voir, qu'il va falloir que ce soit Hachem qui nous aide. Mais nous, on ne pourra pas s'en sortir. On continue. « Dirtiv, comme il est dit, « Ki yamod leyamin evyon leoshia mishofte nafsho » J'ai juste oublié de vous dire qu'aujourd'hui, on va arrêter le cours un petit peu plus tôt, parce que j'ai un autre cours exceptionnellement aujourd'hui, que je n'ai pas d'habitude le mardi, mais j'en ai un autre à midi. Je suis obligé de m'arrêter, parce que sinon je vais m'écrouler dans ce marathon. Qui a un mode yaminevion, comme dit le verset, que Hachem se trouve à la droite du pauvre, les Oshia, le pauvre c'est l'homme, Hachem se trouve à la droite de l'homme, les Oshia, Mishofte Nafsho, pour le sauver de ceux, au pluriel, qui jugent son âme, qui le jugent. Ça prouve bien donc quoi? Qu'il y a plusieurs juges. Et que Hachem se tient à côté du pauvre. Le pauvre, c'est vous et moi, on ne sait pas quoi faire. Qui on écoute? On écoute le Yetzerara qui a raison ou on écoute le Yetzeratov qui a raison? Puisqu'on parle d'un Yetzerara qui a raison lui aussi. Seulement, il a raison théorique. Mais nous, on ne sait pas que c'est théorique, sinon ça serait facile. Alors Hachem se tient à nos côtés pour nous sauver. Parce que nous, on ne sait pas, on n'en peut plus, on est mes boules balles. Hachem, sauve-moi, je ne peux pas, qu'est-ce que je fais? On va voir concrètement ce que ça veut dire Hachem, sauve-moi, bien sûr. Ce n'est pas une cierge qu'on allume et puis il nous sauve. Et donc, Meshofte Nafsho, Velo Amrou, nos maîtres n'ont pas dit, Zeveze Moshlim, Chas Veshalom. On ne parle pas qu'il est dominé par le Yetzeratov ou le Yetzerara. On ne parle pas de ce cas-là. On ne parle pas de quelqu'un. Parce que dominer, ça signifierait que je suis devant une tentation et elle me domine, j'arrive pas à dire non. Ça, c'est le Yetzerara de la rue. Où je sais que c'est mal, mais le Yetzirah est plus fort que moi. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui croit qu'il est devant un juge, qui lui indique le chemin à suivre. Il ne sent pas l'agression du Yetzirah. C'est beaucoup plus subtil, comme j'expliquais. Parce que celui qui sait que la chose est interdite et qui dit « je l'ai fait quand même parce que c'était plus fort que moi », celui-là, c'est un rachat, c'est un pauvre type. On ne parle pas de lui, ça ne s'appelle pas un Benoni. C'est pas un Benoni. Quelqu'un qui dit « C'est vrai, je sais que c'était pesant, mais j'avais envie d'un éclair au chocolat, quoi, zut !» Tu vas parler avec un bon... Je sais que c'était pas mes sous, mais quoi, alors je sais que... Elle est mariée, mais quoi C'est pas négociable, c'est de la zut, tu tires la chasse et tu t'en vas, je veux dire. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? On parle pas de ça, c'est pas nous. Nous, on est des humains, on est des hommes, des vrais. Mais on est des benoniim. Ça veut dire qu'on peut se faire avoir autrement, quand c'est pas clair. On continue. Alors, et là, donc, de quoi on parle? Ayet serara enora kalder kemoshofet vedean. On parle de celui qui voit son propre état comme un juge, comme une personne respectable, comme un chauffette. Aomer dato, qui donne son avis. son avis est respectable. Tu te rends pas compte que tu es en train de te faire avoir. Car les maasés, mipnei sheyesh od shofet yanacholek alav vetzari la'achia. Et donc, tu es coincé entre les deux. Je veux juste arriver à la phrase qui m'intéresse maintenant. Ve'alacha kedivrei ha'machia. Quand il y a deux avis qui se disputent, tu ne sais pas lequel suivre. Comment tu tranches? Tu vas en suivre un troisième. C'est qui le troisième qui va te sortir de là? C'est Hachem. C'est pour ça qu'il est dit, Hachem se tient à côté du pauvre qui ne sait pas lequel des deux juges écouter. Il se tient à la droite. Et c'est qui? C'est Hachem. Mais ça, je me rappelle que ce cours, je l'avais fait aussi. Je l'ai expliqué aussi. Comment Hachem va t'aider? Là, j'ai dit, tu vas pas rentrer à la synagogue, allumer une cierge, tu vas dire, mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi. Et puis tout d'un coup, pap, tu vois, c'est pas de ça qu'on parle. Non. Mais chauffe-t'en afchon. Yamineviyon. J'avais déjà expliqué, mais je le reprendrai la fois prochaine avec un plus de temps. Il se tient à la droite. Ça veut dire quoi? Si tu veux qu'Hachem tranche et qu'il se mette du bon côté, pour que ce soit deux contre un, il faut que Hachem puisse se mettre à ta droite. C'est quoi la droite de l'homme? C'est le chesed. Il faut que tu sois un homme de chesed. Tu ne peux être aidé que si tu es un aideur. Un aideur, si tu aides, ne peut être aidé que celui qui aide. Ça veut dire que la Torah ici nous révèle un secret absolument incroyable. Dans toutes les situations où un homme se trouve devant deux chemins qui lui paraissent aussi bons l'un que l'autre et se cache une mine dans l'un des deux, si tu mets ton pied, tu sautes avec et que tu ne sais pas. Et pire encore, que le chemin miné te paraît encore meilleur que le chemin, le vrai, il n'y a qu'une seule chose qui peut t'aider. C'est qu'Hachem, tout de suite, il va venir, hop, il va te pousser sur le bon chemin. C'est-à-dire, des fois, vous savez, des fois, comme ça, l'eau est l'exemple, mais c'est un exemple connu, tu vas traverser la route, après, il y a un camion venir, tout que quelqu'un, il t'appelle. Chaim, ah, comment tu vas? Et puis, tu ne te rends même pas compte, hop, le camion, il est passé. Le Chaim, c'est Hachem. Alors, si tu veux que ta vie, elle soit comme ça, qu'à chaque fois que tu vas mettre ton pied sur une mine, Hachem soit à tes côtés pour te sauver, il faut que tu sois un homme dont la vie est une vie de chesed. Alors, tout le problème, ça va définir ce que c'est le chesed. On en a déjà beaucoup parlé, mais on recommencera le cours à partir de la semaine prochaine. J'avais déjà expliqué que la notion de chesed, c'est pas uniquement la bonté, c'est aussi ça, mais c'est pas uniquement la bonté, mais selon la véritable traduction de nos maîtres, olam chesed yibane. Le chesed, c'est la capacité qu'un homme a de construire. Qu'est-ce que tu construis dans ta vie? Qu'est-ce que tu construis? Un constructeur est un homme de chesed. Donc ce n'est pas uniquement aider, mais c'est construire. Donne un exemple simple, même dans le domaine de la tzedaka, d'accord? Et disons-le, comme les Chinois. D'accord? Il ne faut pas donner un poisson à quelqu'un, mais il faut lui apprendre à pêcher. C'est un proverbe chinois. Très bien. Ben oui. Maintenant, ce que je vais vous dire, en juif, c'est qu'ils nous l'ont piqué, c'est un midrash. C'est un midrash. Un midrash qui le dit. Au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher, sauf que c'est dit en hébreu. C'est un midrash qui date de plusieurs millénaires. Mais peu importe. Ou disons qu'eux, ils l'ont trouvé, nous, on l'a trouvé aussi, allez, pour être moins pédant. Mais ce n'est pas important. Nous, on a aussi ce midrash-là. Quoi qu'il en soit, les Chinois ont raison. Tu donnes un poisson à quelqu'un qui a faim, tu as fait de la charité, tu lui apprends à pêcher, tu as fait du chesed. C'est pour ça que ne jamais traduire chesed par charité, bonté ou pitié. Parce que ça peut être aussi donner du poisson à quelqu'un. C'est bien, mais ce n'est pas du chesed. Chesed, tu lui as appris à pêcher. C'est pour ça que nos maîtres disent qu'elle le plus haut. Il y a 8 degrés dans la tzedaka, 8 niveaux. 8 comme par hasard, ça veut dire que le 8e, c'est quelque chose qui est au-dessus même de la nature humaine. Chiffre 8. Ouais. Quel est le niveau le plus haut de chesed?
Le 8.
D'accord? Apprendre un métier à quelqu'un. Ouais. Ou employer quelqu'un dans ton affaire. C'est le niveau le plus haut de chesed. C'est le plus haut de tous. Pourquoi? Parce que tu l'as construit. Avant ça, il y a moins haut, mais encore très haut. Et vous le savez, qu'est-ce qui est plus grand? Donner 100 000 euros à quelqu'un ou prêter 100 000 euros à quelqu'un?
Prêter
est plus grand. Pourquoi? Quand tu prêtes, tu le responsabilises. Tu l'obliges à te le rendre. Donc tu l'obliges à construire. Et donc tu as construit. Alors demandez dans la rue, dis-moi, tu préfères recevoir ou prêter?
Bien sûr.
Parce que les gens sont désassistés. Bien sûr. On est victime de l'Europe et du monde occidental. Mais c'est construire. Donc quelqu'un qui vit avec le souci de construire le monde, de construire les autres, c'est un homme de chesed. Et donc automatiquement, à chaque fois qu'il se trouve dans ce genre de situation, Hachem l'aide. Des fois même sans qu'il s'en rende compte. Maintenant, ça veut dire quoi concrètement à notre niveau? Et moi, j'ai un mari, j'ai des enfants, et je vais aider qui? Je veux dire, je vais pas taper chez le voisin en lui disant, dis-moi, tu voudrais pas que je te construise? Parce qu'il me foutre pas la figure, il va dire, va te construire toi-même, espèce de détruit. Espèce de ruine, il va me dire. J'imagine un Israélien où il dit, je pourrais pas te construire. Je vais dire, attends, je vais dire, t'es pas en France ici, hein? On est au Far West ici. Je vais dire, on est des cow-boys, là. Ça plaisante pas chez nous. Donc, comment?
On a tous une attirance particulière qui fait que sur ce domaine-là, on est très fort. Et donc, on aide les autres sur ce domaine où on arrive à nous à s'en sortir.
Oui, mais quand on est dans une vie standard où c'est moi, mon mari, mes enfants, mes voisins... Je...
Faut sortir du standard.
Non, mais non, mais j'attendais une réponse peut-être plus simple encore. Déjà, commençons à construire aussi à l'intérieur de sa propre famille, à l'intérieur de son propre couple. Parce que c'est pas évident. Vous savez, on peut vivre 60 ans à côté de quelqu'un et pas une seule seconde l'avoir construit. Hein. Comme on l'a épousé, il est resté, moi pareil. Hein. Simplement, ce qui a changé, c'est les poils blancs dans la barbe, dans les cheveux, les rides. Mais construire, ça veut dire que tu relèves les manches et tu dis, ben, toi mon petit coco, tu vas voir, je vais te changer. Hein. Et vice-versa. Ça s'appelle construire. Vous savez, un homme ne peut avoir peut-être que comme seul résultat qui est déjà une réussite incroyable qu'il a, il a construit sa femme, elle a construit son mari. Ils ont construit leurs enfants. Pas seulement ils ont mis au monde des enfants, ils ont construit des enfants. Et on s'est construit en tant que couple. C'est déjà une construction énorme.
Alors quand comprenez? On n'a pas réellement construit, quoi? Et qu'on se trouve face à deux vérités.
Et on risque de sauter. Ça veut dire qu'on va mettre le pied dans le champ miné. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va faire le faux choix et on va se casser la figure et on s'en rendra compte un peu plus tard. Comme disent nos maîtres, le chemin du mensonge est un chemin qui commence dans la lumière et qui termine dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'au début c'est waouh, super! Et puis après, oh, si j'avais su.
Mais il n'y a pas une troisième solution où on se dit. Ça, c'est la vérité. Je ne sais pas quoi faire.
C'est l'aide d'Hachem, en principe. Nos maîtres nous disent que le chemin de ce genre de mensonge est tellement vicieux que si ce n'est pas Hachem qui t'aide, en principe, tu te trompes. Il est possible pour... Maintenant ça, c'est la réponse globale. Maintenant, c'est évident que dans la vie de tous les jours, des fois oui, des fois non, etc. Mais la réponse globale, nos maîtres nous mettent en garde. Généralement, le mal, celui dont on parle, est beaucoup, beaucoup plus rusé que le bien et il t'attirera plus facilement dans son chemin que celui du bien. Et donc, si tu n'as pas Hachem qui t'aide, tu te trompes. Bon, vous me direz, c'est l'expérience qui construit aussi un homme. Ça fait partie des choses au sujet desquelles nos maîtres nous disent...
On ne peut pas faire le lien.
Comment? Si, parce que généralement, tu te rends compte que tu t'es trompé. Non, on ne parle pas de quelqu'un qui va toute sa vie vivre dans l'illusion. Parce que ça, c'est un méchant. Là, on parle d'un Benoni. On parle de quelqu'un qui est bien. Donc Hachem ne va pas le laisser toute sa vie dans l'erreur. Ça veut dire qu'il va prendre des coups sans arrêt, il va faire des choses et puis il va se rendre compte trop tard que ce n'était pas le bon choix.
Et on peut passer à un raisonnement suivant en se disant, qu'est-ce qu'il veut de moi Hachem là?
Oui.
J'ai deux vérités et je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il veut de moi Hachem?
Je ne dis pas que la prière ou la prise de conscience moi, là, ne va pas aider. Simplement, ce que dit le texte, c'est que si vous voulez, je vous donne une différence. Peut-être qu'effectivement la prière et la demande d'aide va aider, mais là c'est toi qui provoques l'aide. Ce que j'explique moi, c'est que si quelqu'un, indépendamment de ce problème ponctuel, s'habitue à avoir une vie de chesed, même sans le demander, Hachem lui fera toujours prendre le bon chemin. Ça veut dire que Hachem se trouve à ses côtés, je veux qu'il voit, hop, tiens, va à droite, hop, va à gauche, hop, tu te rends même pas compte. Parce qu'à chaque fois que je se fais, hop, tu es sur le bon côté. Bon, c'est très utopiste dans la vie de tous les jours. parce qu'on d'abord on n'est jamais à 100% un homme de chesed et on ne mérite jamais à 100% l'aide d'Hachem. Mais ces principes sont réels quoi qu'il en soit. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.